Je voulais fêter avec vous le sacre, hein. C'est beau, un petit bœufiste élu comme un vulgaire Ceausescu. Ça s'arrose, quoi. 98,1%, c'est bouleversant, n'est-ce pas? Alors, vive Napoléon, et puis salut à toute l'équipe, au revoir.
Bonjour Daniel, c'est Dominique de Paris. J'ai écouté un petit bout de Sarkozy hier sur son congrès là qui passait à la télévision, le truc en intégralité. Sarkozy a parlé du visage de la France, celle qui lui ressemblait, celle qu'il voulait. Alors après avoir choisi la figure de Simone Veil, hein, qui fait aujourd'hui l'unanimité pour son combat de 74, il a glissé à Pompidou et puis bon, à d'autres, et de proche en proche, et passant par la France de l'édit de Nantes, enfin des tas de choses dans ce genre-là, il nous ajoute à un moment que sa France, c'est la France des croisades. Ah bon ? La France de Sarkozy, c'est la France des croisades. Une France qui est un exemple pour le monde entier. Il dit encore un peu plus loin, la grandeur de la France et les croisades, ben, il y a vraiment du Georges Bush dans Nicolas Sarkozy, non ? Je sais pas, il faudra peut-être lui poser des questions supplémentaires sur ces croisades. C'est intéressant comme France d'aujourd'hui, la France des croisades.
C'est Julien de Paris. Récemment, j'ai eu une discussion avec toute la famille, la mienne, de gauche bien sûr, où on se demandait est-ce qu'on allait voter pour les prochaines élections, si on allait recommencer comme en 2002, si on allait voter utile ou pas. Alors on est tous tombés d'accord pour dire que Ségolène vaut pas mieux que Sarko, mais bon, c'est qu'après, quand on décline autour d'eux, ça fait peur. Un gouvernement Fillon, Devedjian, Copé, Hortefeux, Doustoglavi, ça fait peur. Donc, pour une fois, je crois utile. Je préfère encore les autres, même s'ils sont pas brillants, mais il y a pas photo, quoi. Voilà. Bon, ben sinon, bon courage, et puis merci pour vos émissions. Ciao.
Allô, bonjour, c'est Thérèse Marie du collectif unitaire dans la Sambre-Avesnois dans le Nord. Voilà, j'appelle parce que José Bové a dépassé le cap des 11 000 signatures à 22h ce vendredi soir. C'est génial et ça continue à monter, voilà. Allez, salut, à la semaine prochaine.
Bonjour France Inter. Nous sommes le samedi 13 janvier 2007. Il est 10h30 et je me promène dans la ville d'Alès, dans le Gard. Sur la place du marché, des militants socialistes distribuent des tracts pour les élections présidentielles. Un de ces militants m'interpelle et me donne un tract. Eh bien, je lui dis, comme vous êtes gentil de me donner un tract sur Ségolène Royal, je vais vous en donner un. Je sors de mon sac un tract du Front National et ces gens-là me traitent de provocateur. C'est pas des fils de pute, ces gens. J'étais peinard, tranquille. Ils me donnent leur tract. Moi, je leur donne le leur. Vu que nous, on est des fascistes et eux, ce sont des démocrates. Et ils m'ont dit que j'étais un provocateur. Quelle bande d'enculés. Je suis obligé de parler comme ça parce que ce sont des enculés. Alors, je leur ai pas pris leur tract. Ils n'ont pas pris le mien. Bougez pas, on arrive.
C'est Daniel à Paris. Ah, juste un mot pour détendre l'atmosphère, là, dans ce monde de brut. Hier, dimanche, sur la 5, Fogg, François-Olivier Gisbert recevait des révolutionnaires patentés autour de Montroy, des contradicteurs qui l'ont tous approuvé sur le fait que il avait bloqué les salaires et tout en 82, hein, que c'est à partir de là que tout a commencé à bien foirer. Bon, enfin bon, et ils étaient tous d'accord, les contradicteurs, c'était Minc, l'autre fou là, Duhamel. Et puis, bien sûr, Jean-François Kahn, notre béroutiste de luxe. Bon, ça, c'était pas le problème. Mais alors, la présentation de Fogg, d'Alain Minc, tu sais comment il l'a présenté ? Alain Minc, iconoclaste. Alain Minc, iconoclaste. Ouais. Alors là, je dois dire que, pour rigoler, on a rigolé. Le reste était sans intérêt, par ailleurs. Allez, salut.
Salut, c'est Julien de Savoie, merci pour ton émission. Le service public a réussi à nous faire bander à 15h. C'est une merveille que ça continue comme ça. Ça change un peu tous les discours pisse-froid qu'on entend actuellement. Et surtout, banzai. Salut!
Elle s'émousse ou elle s'affûte? Elle s'émousse ou elle s'affûte? C'est la question que nous posons chaque jour dans l'équipe de la base. Si j'y suis, on parle de vos oreilles, bien évidemment. les oreilles des auditeurs. Elles s'émoussent ou elles s'affûtent après qu'elles aient écouté cette émission modeste et géniale, bien évidemment, mais après qu'elles aient reçu toutes ces informations de tous les côtés. Et si on se limite aux oreilles, les informations, ça vient de tous les côtés. Et qu'est-ce que ça nous fait et qu'est-ce que ça vous fait? Ah, question, ça émousse ou ça affûte? Une façon de présenter le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est l'histoire du quotidien Libération. Et oui, est-ce qu'avec le temps, Libé a affûté ou a émoussé ou bien les deux? Cette aventure, c'est une aventure formidable que celle de ce journal. Il est créé il y a 34 ans, vous le savez, donc vous suivez peut-être actuellement les péripéties, j'ai pas dit ultime, et les avatars successifs. Est-ce que le journal Libération a reflété notre époque? Est-ce que le journal Libération l'a trahi? Trahison, transition, manipulation de toutes sortes, c'est la vie de ce journal. J'ai pas dit la mort, la vie de ce journal que Pierre Rimbert, un chercheur qui s'appelle Pierre Rimbert, a raconté dans un petit livre dans la collection Raison d'agir qui s'appelle « De Sartre à Rothschild ». Nous avions déjà fait venir Pierre Rimbert dans cette émission pour nous parler de l'aventure de ce journal, mais les péripéties récentes ont fait que nous avons éprouvé le besoin, nous avons demandé de venir pour faire une, nous refaire une version, disons, corrigée et augmentée de cet entretien qui en dit très très long sur ce que nous sommes et sans doute sur ce que nous pensons aujourd'hui, tant il est vrai que ce journal a joué un rôle important et joue un rôle important et peut-être jouera encore un rôle important longtemps dans la fabrique de l'opinion. Voilà notre émission du jour qui vient après les messages que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. On voici encore quelques exemplaires. Beaucoup, évidemment, sur l'énorme gaffe de François Copé. Et puis, des réactions très, très favorables à notre surprise, à notre agrément sur l'émission de vendredi sur les contes érotiques arabes. Et puis, beaucoup de choses, évidemment, sur aussi notre cher Alain Finkielkraut et son émission qu'avait épinglé Dominique Vidal dans l'émission de jeudi. Voilà, c'est parti. Libé, de Sartre à Rothschild et auparavant quelques messages.
Manté, manté, il en restera toujours quelque chose. Je viens d'entendre M. Copé affirmer sur France Inter que 4000 euros net, c'était ce que gagnait un prof certifié en fin de carrière. Comme je suis prof en fin de carrière, au dernier échelon, je gagne 2955 euros brut par mois, soit même pas 2400 euros net. Et les quelques rares collègues qui ont la chance de terminer à la hors classe, s'ils arrivent au dernier indice, ce qui est très rare, ils touchent au mieux 3517 euros bruts par mois. Alors, M. Copé est ministre du budget. De deux choses l'une, où il est incompétent et incapable de connaître le salaire des fonctionnaires, ou il est un menteur. À lui de choisir. Bernard de Bayonne.
Voilà, eh ben, écoutez, j'ai enfin peut-être compris pourquoi les femmes musulmanes, enfin une grande partie, sont voilées, chadorées, cachées en fait, parce qu'elles doivent être super, très belles et puis avec beaucoup d'expérience. En tout cas, moi, j'ai passé une heure fabuleuse dans ce monde de brutes, comme dit l'autre, fille politique, que de l'amour et de l'érotisme. Pas du X, attention, pas de la pornographie, loin de là, certains le diront, mais c'est en aucun cas ça. C'était Christian Grenoble. Au revoir.
Tu vas voir un peu les cagots qui... les cagots et les chroniques du pénitier qui vont encore te tomber sur le rable. Ah, c'était très bien, très très bien. Continue, hein. Faut pas céder au grenouille de Béniquier. Mais ça, tu vas te faire engueuler d'être un peu sûr. Allez, au revoir.
Petit courrier. Jolie petite fille, ma douce enflure, mon entrejambe luisante. Pour moi, tu t'es couchée, ton coquillage, ta perle, ton ivoire, je les ai bu. Ivre de tes liqueurs, je me suis noyée en ton cul. Jolie petite, ta main caressante, ta paume entrelaçante, pour moi on jouait, ton orchestre a arrondi mon sexe, ma symphonie, Bach peut aller se coucher, tous les cuivres et les vents peuvent bien se souffler, c'est ton râle que je veux composer, en majeur, excuse du peu, je veux ton cri comme une sirène, moi ton marin d'eau douce, petite, je veux ton guet dans tes abysses, roule-moi, écume-moi, déferle-moi, mon enfant, mon parjure. Je renais en ta cuisse, ma langue se perd sur le pic de tes mamelles naissantes, mes mains chemin de fleurs de cimetière éclose sur tes rondeurs. Ma queue bourgeonne. Petite fille, ma vieillesse se cambre. Mon cortex se tatoue de ton encre. Ma peau se fait papier. Écris-moi. Condamne-moi à ta perpétuité. Ton vieux condamné servant. Je le dédie à Léo et à Dédé. Mireille de Champclauson. Merci, au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet, la bassie j'y suis, avec Pierre Rimbert, Libération, de Sartre à Rothschild.
Flight number 2, arriving from New York.
Libération sera un quotidien d'information, le quotidien des lecteurs de la grande presse, fatigué d'une presse qui les méprise, fatigué des journaux financés par la banque et la publicité, fatigué d'une information étranglée.
Des militants venus de divers horizons et des journalistes ont décidé de se battre pour que le peuple ait un journal ouvert qui permettra dans le domaine de l'information la démocratie directe.
Il faut, pour comprendre ce que nous voulons, voir ce qu'il faut entendre par liberté d'information. Or, la première chose sur laquelle on fait l'erreur, c'est qu'on croit que la liberté d'information, le droit à la liberté de la presse, c'est un droit du journaliste. Mais pas du tout. C'est un droit du lecteur du journal. C'est-à-dire que c'est les gens dans la rue, les gens qui achètent le journal, qui ont le droit d'être informés. C'est les gens qui travaillent dans une entreprise, dans un chantier, dans un bureau, qui ont le droit de savoir ce qui se passe et d'en tirer les conséquences.
La liberté de la presse, c'est d'abord le droit du lecteur. C'est Jean-Paul Sartre qui parlait, c'est en 1973. C'est la création, c'est le lancement du journal Libération. Et on est donc 34 ans après et beaucoup d'eau est passée sous les ponts. Pierre Rimbert, vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « De Sartre à Rothschild ». Maintenant, on a dépassé un petit peu le stade Rothschild.
Oui, on a dépassé le stade Rothschild, mais pour revenir à ce que disait Jean-Paul Sartre, le droit à l'information, c'est un droit non pas du journaliste, mais du lecteur. Et 34 ans après la fondation de Libération, on s'aperçoit que le lecteur exerce son droit en arrêtant de lire Libération. Le journal est en difficulté, il perd des lecteurs, et bizarrement, les gens ne ressentent plus le besoin d'acheter le journal du oui au référendum de Maastricht en 92, le journal du oui au plan Juppé en 95, le journal du oui à la Constitution européenne en 2005. Alors on peut être peut-être tenté d'adopter le registre de la farce hein, pour évoquer les tribulations récentes de Libération, mais bon, ces mésaventures, le problème c'est qu'elles ont entraîné d'importants dégâts sociaux dans l'entreprise Libération. Hein. Depuis deux ans, depuis que Rothschild a racheté une majorité du capital de Libération, eh bien, les suppressions de postes ont touché plus d'un tiers des effectifs.
Oui, mais tout ça, c'est terminé, puisque le journal repart avec la direction de Laurent Geoffrin, une nouvelle capitalisation, ça y est, c'est reparti, et Libération va se recentrer à gauche. Je ne sais pas si l'expression est bonne, se recentrer à gauche, si ça a du sens, mais enfin, c'est ce qu'on nous annonce.
Oui, s'il se recentre à gauche, c'est qu'il était déjà très à droite, hein. Alors, pour le comprendre, peut-être il faut résumer les derniers épisodes. En janvier 2005, le banquier d'affaires Édouard de Rothschild rachète 39% de Libération, donc ce journal fondé 32 ans plus tôt sous le patronage de Sartre pour donner la parole au peuple. À l'automne 2005, Rothschild impose un plan social qui implique 52 suppressions d'emplois. Il essuie 4 jours de grève. Et puis, au début de l'été 2006, il congédie, un peu comme un laquais, le directeur historique du journal, Serge Julie. Et la suite est assez savoureuse, puisqu'à l'automne, on voit Edoui Plenel, l'ancien directeur de la rédaction du Monde, et Laurent Geoffrin, qui est son homologue au Nouvel Observateur, se disputer en quelque sorte le privilège de mettre en œuvre un nouveau plan d'économie imposée par Rothschild pour rétablir les finances de l'entreprise. Et cette fois, ça n'est pas 52 suppressions de postes, c'est 81 suppressions de postes. Alors, Geoffrin vous le disiez, connaît bien la maison, Libération, pour l'avoir dirigée à la fin des années 90. Et puis, il avait cet avantage vis-à-vis de Rothschild de lui avoir fait connaître son aptitude à mater une rédaction, ce qui est quand même une propriété intéressante pour quand on cherche à diriger une rédaction. Geoffrin avait expliqué « Au Nouvel Observateur, je suis le seul à avoir licencié des salariés. À Libération, j'ai résisté à 3 grèves générales. » Et puis il ajoutait exactement avec le même aplomb « Ma cause, c'est le socialisme. » Ça, c'est Geoffrin. Alors, vous imaginez que cette conception un peu singulière du socialisme a enthousiasmé Édouard de Rothschild, et donc Geoffrin l'a emporté face à Plénel, est devenu directeur de la rédaction et PDG du titre « Contre l'avis des salariés ». Lesquels, à présent, se trouvent en quelque sorte pris en tenaille entre, d'un côté, la menace d'un dépôt de bilan, et puis, de l'autre, celle d'un plan de réduction d'effectifs. À tel point qu'un des journalistes de Libération, Pierre Marcel, expliquait que les fêtes de fin d'année 2006, je cite Marcel, « devraient nous voir glisser dans les souliers d'Edouard de Rothschild notre ultime capitulation. »
Le journal attaque toutes les institutions qui modèlent la pensée des gens, qui cherchent à contrôler au service des intérêts leurs idées, leurs impulsions, leurs instincts. Il démontre donc que ce soit la télévision, l'enseignement, la culture, tous ces instruments dont la bourgeoisie se sert pour tenir la population, pour la tenir à sa place.
Nous avons besoin de rédacteurs, de reporters, de secrétaires de rédaction, de dessinateurs. Venez nous aider. C'est l'occasion pour la profession tout entière de démontrer qu'elle est prête à honorer sa déontologie, sa morale, et prête à se mettre vraiment au service du public.
Alors, on dit pas service du peuple, mais c'est pas loin, service du public. Dans quel contexte historique, disons, naît Libération 1973?
Tout à l'heure, on a entendu Sartre parler de Libération. C'est déjà un premier élément du contexte. À ce moment-là, au début des années 70, des intellectuels reconnus comme Sartre, Foucault, mais aussi des artistes, ne passaient pas leur temps sur les plateaux de télévision à vendre leurs livres ou leurs spectacles ou leurs films. C'était des gens qui entretenaient avec les médias une distance suffisamment grande pour leur permettre d'avoir une certaine liberté de critiquer les médias, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Mmh. Critiquer les médias, mais aussi soutenir la presse alternative, la presse qu'ils appelaient la presse libre, et soutenir dans le cas d'espèce la naissance de Libération. Le deuxième élément de contexte, c'est que Libération a cristallisé en quelque sorte toute une critique des médias qui s'était développée depuis 68. Et c'était une critique qui dénonçait dans un même mouvement à la fois le contrôle politique sur l'information audiovisuelle, hein, l'ORTF avec la censure du gouvernement, mmh. et puis en même temps qui dénonçait le capitalisme de presse, la concentration des journaux, l'influence des propriétaires sur la presse. À vrai dire, la question de l'information, de la liberté de l'information, était une question politique. C'était une question qu'on entendait résoudre avec les moyens de la politique. Et on oublie un petit peu, c'est normal quand on lit Libération aujourd'hui, que ce journal a d'abord été conçu comme une espèce de critique en acte des médias dominants. Si vous relisez le manifeste de décembre 72, Libération est décrit comme, je cite, une embuscade dans la jungle de l'information. Les fondateurs du journal entendent, je les cite, lutter contre le journalisme couché. Et puis, lire les extraits aujourd'hui du manifeste de Libération, c'est assez étonnant. J'en cite un passage. Aujourd'hui, la presse quotidienne donne la parole au patronat, aux politiciens, aux puissants, qui d'ailleurs financent cette presse. Et elle se contente, quand elle ne peut faire autrement, de citer des bouts de phrases d'ouvriers et de paysans. Le quotidien Libération donnera la parole au peuple et citera des bouts de phrases de puissants. Il renversera le monde de la presse quotidienne. Alors ce qui est curieux, c'est que on est presque 25 ans plus tard et toute la première partie de ce manifeste est encore valable. Aujourd'hui, la presse quotidienne donne toujours la parole au patronat, aux politiciens, aux puissants. Mais par contre, Libération ne donne plus la parole au peuple, il donne la parole à Alain Duhamel, qui est son chroniqueur politique.
En 1973, au moment de la sortie, la création de Libération, Jean-Paul Sartre est reçu par Jacques Chancel.
Radioscopie, Jean-Paul Sartre, Jacques Chancel.
J'ai fait tout ce que j'ai pu pour ce journal. Et ce journal ne m'apparaît pas simplement un journal du journalisme. Faire parler les gens. Et oui, j'ai fait des meetings en province, à Lille, à Lyon, sur ce journal. Ce qui était très émouvant, c'était de voir des ouvriers, des infirmières de l'hospice de vieillard, des choses comme ça, venir nous dire, est-ce que vous direz ça? Nous essayons de faire passer telle information dans les journaux de notre pays, du Nord ou bien du Lyonnais. Et nous n'y arrivons pas. Telle chose a eu lieu, n'y arrivons pas. Et ce qu'elle disait était émouvant. Et nous pensions que ça, en effet, c'était ça qu'il fallait que notre journal...
Allez-vous réussir?
Qu'est-ce que vous voulez que j'en sache? Ça ne dépend pas seulement de nous, hein. Nous sommes simplement ceux qui lançons l'idée, qui essayons de réunir des documents. Mais ça dépend du peuple, c'est-à-dire des gens.
Voilà, la voix de Jean-Paul Sartre en 1973, lors de la sortie de Libération. Il faut dire, je me souviens de cette époque, que Sartre ne venait pas à l'ORTF. Hein. L'ORTF, c'était l'endroit où il fallait surtout pas venir. On se souvient du slogan de mai 68, la police à l'ORTF, c'est la police chez vous. Donc Sartre ne venait pas à l'ORTF, mais il était venu à l'occasion de la création de... Enfin, la sortie de Libération.
Oui, Chancel était un peu exaspéré parce qu'il voulait que Sartre lui parle de philosophie, de littérature et de théâtre, et Sartre ne lui parlait que de Libération. Et ça rendait un peu Chancel foudrage. Alors, est-ce qu'il a réussi? Est-ce que Libération a réussi? C'est vrai que c'est un journal inédit dans les années 70, quand ses fondateurs parlaient de renverser le monde de la presse quotidienne. Ça voulait dire trois choses, et trois choses qui ont peu ou prou marché pendant un temps. Ça voulait d'abord dire changer la façon de faire du journalisme. Les journalistes, comme nous l'explique Sartre, ne se situent plus au-dessus de ceux dont ils parlent, mais ils donnent la parole au peuple. Ce sont des écrivains publics, les scribes du peuple. Ça, c'est quelque chose qui n'existe plus.
Et qui n'existait pas à l'époque non plus, oui.
Et puis, renverser le monde de la presse, c'était aussi faire exploser les hiérarchies dominantes de l'information. Comment est-ce qu'on structure un journal télé ou une page d'un quotidien? L'équipe de Libération traitait en priorité les sujets que ses confrères négligeaient, que la presse dominante négligeait. Par exemple, les luttes sociales. Et simultanément, elle négligeait les thèmes qui obsédaient, qui obsèdent toujours d'ailleurs, les éditorialistes parisiens comme le commentaire politique. Pour vous donner un exemple, il n'y avait pas de rubrique économie. Ça, c'est un point qui est assez remarquable. L'économie, elle était enchâssée dans le social. On parlait de l'économie à travers le social et du point de vue des salariés.
Il n'y avait pas le cahier à part ni les pages saumon.
Non, il y avait une rubrique phare qui était le social. Et en revanche, 32 ans plus tard... Si vous ouvrez les trois principaux quotidiens français, qui sont Le Figaro, Le Monde et Libération, le social est traité au travers de l'économie, c'est-à-dire au travers du point de vue des entreprises, et en particulier des cadres supérieurs et des dirigeants d'entreprises, qui sont les populations ciblées par les annonceurs publicitaires du Monde, de Libération, du Figaro.
C'est vrai que la classe ouvrière... dont on pouvait parler beaucoup au départ et dont on parle plus, elle réapparaît dans les pages de Libé dans les années 80 dans la rubrique Fait divers ou psychiatrique.
Pierre Rimbert, je rappelle le livre que vous publiez dans la petite collection Raison d'agir, Libération de Sartre à Rothschild. Voilà pour l'ambiance et le climat et les conditions de création de Libération en 1973. Mais, évidemment, ce journal, 32 ans maintenant, a connu un certain nombre de ruptures fameuses. Et le pays aussi a connu des ruptures fameuses. Celle de 1981, c'est-à-dire l'arrivée de la gauche au pouvoir, évidemment, a une répercussion pour Libération.
Oui, en 81, le Libération première formule disparaît. En février 81, il y a eu une succession de crises internes au journal et Libération suspend sa parution et ne reparaît qu'au lendemain de la victoire de Mitterrand à l'élection présidentielle. Et le nouveau Libération qui paraît à ce moment-là n'a presque rien à voir, si ce n'est le titre, et l'identité de son directeur, avec le précédent. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, certains parce qu'ils estimaient que le nouveau journal trahissait ce qu'il représentait auparavant, et puis beaucoup d'autres rédacteurs sont arrivés, notamment des jeunes journalistes tout frais et moulus de Sciences Po, des gens qui parlent beaucoup d'économie, qui veulent faire un journalisme professionnel, conforme à ce qui se fait ailleurs, un journaliste de référence, de qualité, comme ils disent. Mais du coup, une partie des thèmes qui inspiraient le premier Libération, notamment les luttes sociales, les thèmes un petit peu marginaux dans les autres journaux, dont les autres journaux ne parlaient pas, vont se raréfier dans les colonnes de Libération, qui va adopter une ligne rédactionnelle inédite dans la presse française. En tout cas dans la presse quotidienne, c'est la ligne libérale-libertaire.
Mmh.
C'est-à-dire, du point de vue économique, orthodoxie libérale, défense de la rigueur économique, défense de l'ouverture au marché européen, etc., etc.
Réalisme, il y a tout un langage qui se met en place.
Voilà, c'est le réalisme, il faut surtout se défier des idéologies. Bon, c'est l'ambiance des années 80. Regardez la réalité en face. Ni droite, ni gauche, modernité. Voilà. C'est le slogan de Libération. C'est le slogan de l'équipe qui anime le service économique, en tout cas, de Libération. Mmh. Et orthodoxie économique, mais aussi excentricité culturelle et progressisme sur les questions de société. Parce qu'évidemment, si le journal n'avait qu'une ligne de libéralisme économique, il serait immédiatement classé à droite. Or là, ce journal accommode ce libéralisme économique d'un certain progressisme sur les questions de société et sur les questions culturelles. Et
cette ligne, il y a une façade libertaire, il y a une façade liberté des mœurs, liberté chérie.
Oui, Libération des années 80, c'est l'apologie de la rigueur et les bandes dessinées érotiques dans le même journal. Mmh, mmh. C'est la célébration simultanée de la libre entreprise et puis de SOS Racisme. Mmh. C'est les cours de la bourse, le libre-échange et les soirées branchées et déjantées dans les catacombes parisiennes. C'est tout ça à la fois. La ligne libérale-libertaire, c'est en quelque sorte tricoter dans le même gilet les élans de Coluche et puis les idées de Raymond Barre. Et ce qu'il y a de particulier avec cette ligne rédactionnelle, c'est que elle va procurer au public de Libération une espèce de sas d'acclimatation idéologique. Un sas d'acclimatation très douillé, parce que un petit peu comme dans un salon d'essayage, les lecteurs vont pouvoir enfiler les vestons de la pensée de marché, mais tout en restant à l'abri derrière un rideau d'audace sexuelle plus ou moins éventée, de frasques culturelles et puis de bonne conscience de gauche. Donc c'est un élément assez important dans les années 80.
Est-ce que le lecteur s'en rend compte de ça? Est-ce qu'il est conscient de ça? Ou bien c'est un glissement qui se fait peu à peu?
C'est-à-dire que le lecteur a pas mal changé quand même depuis les années
73. Oui.
Voilà. Il a changé. Ça ne veut pas nécessairement dire que ce ne sont pas les mêmes. Mais ces lecteurs ont changé. Ils étaient marginaux, ils étaient souvent sans emploi stable, ils étaient très militants. Et puis, dans les années 80, ils ont souvent un emploi stable. Ils sont en train de s'installer dans la société. Ils vont contracter des emprunts immobiliers. Bref, ils sont bourgeoises et Libération les accompagne. C'est le journal mouvement d'un embourgeoisement.
À l'intérieur du journal, comment ça se passe? Est-ce que les rédacteurs, tout le monde suit ces transformations? Il y a des départs, il y a des cassures, suppose, évidemment.
Il y a toujours eu un très grand nombre de départs, de cassures, de gens qui trouvaient le journal encore trop à gauche, ou alors insuffisamment rémunérateur, qui partent au Nouvel Observateur ou au Matin de Paris. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens dont on n'entend jamais parler, mais qui sont partis parce qu'ils estimaient que ce journal trahissait leurs idéaux. Mmh. Et c'est ce qui est un peu terrible avec Libération, c'est que toute la mémoire, toute l'histoire de ce journal est captée à leur profit par les dirigeants qui sont restés et qui, eux, ont renié. Les renégats à Libération ont, en quelque sorte,
le pouvoir.
Privatisé l'image et l'ensemble des luttes que ce journal a menées, y compris celle de la période pendant laquelle il était extraordinairement progressif, à la fois sur les questions économiques, sociales et de société.
En 1982, c'est le début de la pub dans Libé.
Libération, avec d'autres journaux, Globe par exemple, ou l'événement du jeudi, a beaucoup contribué à redéfinir ce que devait être la gauche. Hein, à redéfinir la gauche autour d'un espèce de coulis de valeurs consensuelles qui excluait l'anticapitalisme. Être de gauche, mais à condition que les idées économiques de la gauche soient empruntées à la droite.
À toi qui naguère professais la dissidence et le maquis, tes cris de guerre, qu'en as-tu fait l'hymne et la carte du parti, et ses manières si polissées, toutes ces danses de salon, ces airs comment tu volissais, c'est comme un gant qui le tourment, oh, les temps changent. Oh, les temps changent. Oh, les temps changent. Ah, tu as croqué, tracté, slogan, mot d'ordre et manifestation pour des choses plus élégantes. DRH, golf et stock option. Tu l'as dit, t'as prise la chanson. Qu'importe, puisqu'il est de bon ton. Autant se mettre au diapason. C'est pour le bien de la nation. Oh, les temps changent. Oh, les temps changent. Oh, les temps changent. Je ne te salue pas, ni ne te félicite. D'ailleurs, tu as ta conscience. Pour toi, la chose est affaire de valeur. Ok, c'est un peu démago, je te le concède, je l'entends. Avoue, c'était bien trop tentant. Entre gauchos, on se comprend. Oh, les temps changent. Oh, les temps changent.
Alors, on a parlé de ceux qui ont collaboré à Libération et qui se sont mis en rupture. On le disait en commençant, le plus fameux, quoi qu'il soit pas bien très célèbre aujourd'hui, et il mérite de l'être, c'est Guy Hockenheim, qui a disparu il y a quelques années, et qui, en 1986, donc sort ce bouquin, Lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary, et Guy Hockenheim est reçu par Bernard Pivot dans Apostrophe.
En mai 68, ils avaient 20 ans. En mai 86, ce sont des quadragénaires où on passe de lettres. Et en épigraphe de cette émission, je voudrais vous citer une publicité que vous avez probablement lue dans vos quotidiens. En mai 68, on a refait le monde. En mai 86, on refait la cuisine. Alors, Guy Hockenheim, lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary, c'est déjà méchant. Dans les textes cités en épigraphe, il y a cette phrase célèbre de Marcel Jouhandeau, disant aux manifestants de mai 68, « Rentrez chez vous, dans 10 ans, vous serez tous des notaires. » Et puis, il y a cette... Alors, là, j'ai le choix.
C'est un peu trompé, ils ne sont pas tous devenus notaires.
Ils ne sont pas tous devenus notaires. Et alors, là, j'ai le choix, là, dans vos... pour donner votre ton, votre colère. Ex-gaucho, ex-contestataire, ex-révolté, ex-mari, toujours en divorce de mai 68, aujourd'hui membre à vie du club ouaté des renégats. Qui sont ces renégats?
Les renégats sont tous ceux qui, tout simplement, ont écrit des livres ou ont participé médiatiquement dans des journaux ou à la télévision à cette forme de restauration des idées que nous avons vues depuis une dizaine d'années. Je parle de restauration, je sais que c'est un mot que les gens emploient plutôt politiquement. Par exemple, on dira Chirac, c'est la restauration. En fait, je ne crois pas. Moi, je crois que la restauration réelle des idées dans ce pays, elle a commencé à la fin de Giscard et elle s'est faite de façon massive, à mon avis, sous Mitterrand et sous la gauche. Et ce que j'appelle la restauration, c'est le fait que tout ce qui avait été contesté, tout ce qui avait été nié, tout ce qui avait été provoqué d'une certaine manière par mai 68 et la suite, est redevenu au contraire un sujet de respect, de conformisme, d'agenouillement, à savoir le pouvoir d'État, le fric, l'armée, la bombe, l'économie en tant que sujet abstrait comme ça devant lequel on s'incline, tout ce qui d'une certaine manière avait été rejeté par une adolescence utopique ou généreuse.
Serge Julie, qui a été votre patron à Libération, alors vous lui taillez un sacré costume, hein, ça... Oh là 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 là, oh, il y a 10 pages. Qu'est-ce que vous lui mettez?
Alors voilà, en quoi Libération est-il renégat depuis la période de 73 à maintenant? Si vous lisez un quotidien comme Libération, vous constatez que tout ce qui a été, on peut dire, l'axe de la politique de Libération, ce qui a fait sa célébrité d'ailleurs, c'est-à-dire la contestation de toutes les valeurs, c'est-à-dire la lutte aux côtés des mouvements minoritaires, qui soient d'ailleurs du féminisme, du mouvement homosexuel, des mouvements du tiers-monde, de tous les mouvements qui à l'époque représentaient la contestation. Cette position-là est définitivement abandonnée. Lisez Libération aujourd'hui. Libération aujourd'hui est un journal extrêmement bien fait, si l'on veut, mais dont l'axe est la défense de la hiérarchie du pouvoir, la défense dans le domaine économique des formes, disons, d'entreprise très proches de ce que Bernard Tapie défend également. D'ailleurs, je crois que Bernard Tapie et Libération ne sont pas très loin aujourd'hui. Dans le domaine militaire, c'est la défense de l'intervention au Tchad, par exemple. C'est systématiquement la défense des positions les plus extrêmes à l'intérieur même de l'étatisme ou du respect des valeurs établies. C'est à propos, par exemple, de l'immigration. C'est, par exemple, cet argument à propos des extraditions de Basques qui m'avait beaucoup frappé, que j'ai cité, quand Libération a mis en une, quand on a parlé d'extrader les Basques, le tabou de l'extradition va-t-il enfin sauter? Qu'est-ce que voulait dire cette phrase? Ça voulait dire le tabou qui consiste à ne pas extrader les gens. Le tabou, d'une manière générale, aujourd'hui, sont toutes les idées dites de mai 68, ou contestataires, peu importe, d'après mai 68 également, et la destruction des tabous, ça consiste essentiellement à permettre aux gens d'avoir des positions encore plus réactionnaires, c'est-à-dire datant d'avant mai 68, en gros.
Voilà, Guy Hockenheim, c'était il y a 20 ans, presque 20 ans, 1986, lors de la sortie de son bouquin, dans l'émission de Bernard Pivot, Pierre Rimbert.
Oui, il faut peut-être ajouter que la restauration des années 80 dont parle Hockenheim a cette propriété particulière, c'est qu'elle s'est en même temps parée des plumes de la subversion. C'est une restauration qui s'est présentée comme une révolution. Et Libération était emblématique de ce mouvement-là, puisque d'un côté il traitait des thèmes dont parle Hockenheim, et puis de l'autre, il apparaissait comme étant un journal subversif de gauche. Et dans la presse écrite des années 80, l'ordre moral est tellement associé à la droite qu'il suffit de dire un gros mot, de faire une blague, un jeu de mots, de montrer dans un journal une photo de nu, du porno chic, des photos floues, des choses comme ça, pour paraître de gauche. Hein, c'est vraiment la technique, le procédé par lequel, depuis 25 ans, Libération apparaît comme une publication subversive,
et c'est de gauche. C'est sous ce masque-là que le néolibéralisme rentrera en France. Il aurait été difficile qu'il rentre aussi facilement qu'il était rentré en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Ça a été le masque. Finalement, Libération est le faux-né de la révolution conservatrice néolibérale.
En tout cas, en matière économique, Libération a profité de cette image subversive, de ces transgressions formelles qui existaient dans ces colonnes, pour dissimuler un conformisme économique extraordinaire. Parce que le libéralisme, faire passer le libéralisme pour une idée moderne, c'est quelque chose, c'est un exploit. Le libéralisme, c'est une idéologie recuite qui, depuis 2 siècles, qui échoue perpétuellement et qui, à chaque fois, est représentée comme quelque chose de moderne, comme la pointe de la modernité. Mmh. Et ce qui s'est passé avec le libéralisme, faire passer cette vieille idéologie pour le modernisme le plus accompli, s'est également produit pour la publicité. La publicité, c'était un des tabous dont parle Hockenheim dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Libération s'est fondée en partie contre la publicité. Le manifeste du journal, proclamé en 72, je cite, « Il n'y aura pas de publicité, car les annonceurs, en finançant la presse, la dirigent et la censurent. » En 82, la publicité entre dans Libération, dans les colonnes, notamment pour marquer la rupture avec l'ancienne formule. C'est le signe tangible que Libération a changé. Mais tout de même, un peu craintif des réactions de ses lecteurs, Serge Julie va publier une série d'articles dans lequel il va transformer cette concession au marché, à la marchandise, en une forme de subversion. C'est pas du tout Libération qui change en accueillant de la publicité. C'est, nous dit Julie, la publicité qui a changé. Il faut souligner que la publicité, c'est non seulement une façon de faire rentrer de l'argent dans les caisses d'un journal, mais ça transforme aussi la nature d'un journal. Parce que il ne s'agit plus seulement de vendre de l'information aux lecteurs.
Il s'agit de vendre des lecteurs aux annonceurs.
Exactement. Et du même coup, les lecteurs vont acquérir une valeur proprement marchande pour le journal. On ne donne plus la parole au peuple, on vend le peuple à ceux qui les détroussent, les publicitaires, les industriels. D'ailleurs, aussitôt après avoir introduit dans ses colonnes la publicité, Libération va chercher à mieux connaître ses lecteurs, leurs propriétés, leur pouvoir d'achat, leur goût, qu'est-ce qu'ils dépensent, et la direction va commander à la Sofresse une enquête d'opinion pour savoir ce qu'il y a dans l'intimité de ses lecteurs. Et les informations révélées par cette enquête vont ravir les publicitaires, puisque, selon la Sofresse, 54% des lecteurs de Libération possèdent, je cite, un appareil photo à objectif interchangeable, 30% sont équipés d'un briquet de 500 francs ou plus.
En 82, oui,
c'est
pas
beaucoup.
Mal.
30%, je cite, d'un stylo de 250 francs ou plus, 56% d'une chaîne IFI de 3000 francs et plus, et tout de même 1,3% d'un bateau à voile ou un moteur de plus de 6 mètres. Donc, voilà les questions que Libération se pose à propos de son lectorat, une fois qu'il s'est décidé à accueillir la publicité.
Pour ne pas avoir la prétention de croire que nous, journalistes, faisons l'histoire avec des articles, Libération habitera là où vivent les acheteurs du journal.
Oui, ce qui est important dans votre bouquin, c'est que c'est pas seulement l'histoire, encore une fois, l'histoire de Libération, ni de son patron emblématique, Julie, dont il est question. C'est de tout le pays. Hein, c'est de tout le pays, de toute une culture, de tout un monde qui bascule. Il y a un moment de bascule idéologique, on peut dire, qui s'opère et que Libération, le monde, on pourrait en parler aussi d'une autre façon, illustre, répercute et suscite.
Exactement, parce que en tant que quotidien généraliste le plus jeune dans la presse française, dans la presse quotidienne française, Libération est fondée en 73, Le Monde est beaucoup plus âgé, Le Figaro encore plus, Libération va être l'un des journaux les plus sensibles aux transformations qui vont affecter l'ensemble du champ journalistique. Hein, ça va être un petit peu le séismographe de l'état de la presse française. Et du coup, au début des années 80, ce journal va être très affecté par un certain nombre de modifications du journalisme. Première modification, l'emprise croissante de la télévision. La télévision, qui était avant l'ORTF, qui était peu crédible sur le plan des informations qu'elle apportait, parce que suspectée d'être aux mains du pouvoir, la télévision, en matière d'information, va prendre un rôle de plus en plus important dans les années 80.
J'ai vu apparaître la télévision comme, d'une certaine manière, interlocuteur, muet, bruyant, pour faire la une. C'est-à-dire que dans le bureau de Serge ou des trucs comme ça, avant de faire la une, les années passant, eh ben, on ne faisait la une qu'à 8h30.
Et justement, Libération va s'engager dans cette brèche, puisque dès 82-83, le journal entreprend de devenir une entreprise multimédia. Il va lancer sa chaîne de télévision, ou en tout cas une boîte de production pour faire de l'audiovisuel. Et puis il va se lancer sur une radio, Radio Libération. Et puis sur une agence de photos qu'il va monter. Et puis sur une entreprise de prise de participation dans les pays de l'Est. Bref, il s'agit de faire de Libération un groupe multimédia. Il y aura même, au début des années 90, un projet de fusion avec le journal Le Monde, pour faire une seule entreprise, hein, avec un quotidien du matin qui serait Libération et un quotidien du soir qui serait Le Monde, mais avec une seule entreprise. C'est un espèce de combat pour la liberté de la presse qui consiste à devenir monopolistique sur un créneau. Et puis la deuxième transformation qui très importante qui va affecter le champ journalistique dans les années 80, c'est évidemment l'emprise de l'économie, la constitution ou le renforcement de grands groupes de presse et la nécessité pour les journaux qui jouent ce jeu, qui décident de jouer le jeu des grandes entreprises de presse, d'ouvrir leur capital, d'obtenir de plus en plus de capitaux. Et c'est une spirale dans laquelle Libération va être prise.
Vous évoquez la guerre et vous évoquez la Libération. Vous évoquez comment la presse française, qui avant la guerre était entre les mains de un peu comme aujourd'hui, hein, de propriétaires intéressés de posséder des titres comme moyen de pression. Du moyen de pression politique, du moyen de pression de toutes sortes, se sont vautrés pendant la deuxième guerre mondiale, ont collaboré et ont été, ils pouvaient pas reprendre.
Ils ont été expropriés. Effectivement, avant guerre, l'équivalent du Monde, qui était Le Temps, était possédé et dirigé plus ou moins par le comité des forges. Et la presse d'avant guerre avait atteint un degré de corruption presque inouï. Et l'une des premières choses que le gouvernement provisoire fait en 44 et au début 45, c'est de réglementer très strictement et très sévèrement l'économie de la presse. Il faut croire que ces mesures n'ont pas été suffisamment fermes, puisqu'effectivement des groupes industriels qui étaient emmenés par Lagardère ou par Hersant, condamné à 10 ans d'indignité national après la guerre pour fait de collaboration. Hersant, Lagardère, Prouvot ont rebâti des groupes de presse très importants, dont certains aujourd'hui continuent de dominer le paysage médiatique français, comme Lagardère.
On vous a parfois censuré, par exemple, un article est prêt, avez-vous reçu un coup de téléphone de Robert Hersant vous disant « Non, il n'est pas question qu'on fasse cet article-là, il n'est pas question que l'on titre de cette manière-là »
Écoutez, ce sont des choses qui arrivent dans tous les journaux. Et ça me paraît tout à fait normal. Je pense que tout propriétaire a des droits sur son journal. Hein. D'une certaine manière, il a, lui, le pouvoir. Vous parlez de mon pouvoir. Enfin, mon pouvoir, excusez-moi, c'est une vaste rigolade.
Ils ont le pouvoir du journaliste.
Mais oui,
ils ont la responsabilité.
Enfin, le pouvoir des journalistes. Mmh. Les journalistes passent leur temps à pousser des gens qui s'écroulent, passent leur temps à créer des modes qui s'évanouissent aussi vite qu'elles sont apparues. Bon, il y a des vrais pouvoirs. Le vrai pouvoir stable, c'est le pouvoir du capital. Bon, ça, c'est le vrai pouvoir. Mais il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. Et je trouve pas ça anormal. Ça se passe dans tous les journaux. Il n'y a pas un journal où ça ne se passe pas. Tous les journaux fonctionnent de la même façon.
Ça, c'est François-Olivier Gisbert, en 1989, qui fait un aveu honnête, lucide, sur son métier et l'influence des propriétaires ou des actionnaires sur le journal.
Et oui, les fondateurs de Libération connaissaient déjà cette propriété particulière du capital de dominer ce qu'il possède. Hein. Ils savaient, les fondateurs de Libération savaient que qui possède dirige, et c'est pour cette raison qu'ils avaient structuré Libération comme une entreprise autogérée. Autogérée, ça voulait dire déjà que les salariés possédaient le capital de l'entreprise. Pas d'investisseurs extérieurs. Autogérée, ça voulait dire aussi que les salaires étaient égaux. Ça voulait dire aussi que l'instance décisionnelle, c'était l'Assemblée Générale. Il n'y avait pas de patron. Et puis, c'était aussi pas de publicité. De la sorte, les gens qui ont fondé Libération avaient placé leur entreprise, en quelque sorte, hors marché. Certes, ils vendaient une marchandise, mais l'entreprise de presse sur laquelle reposait Libération était une entreprise qui n'était pas concurrente avec les autres entreprises de presse. Le premier éditorial de Libération, le 22 mai 73, explique « Notre pauvreté est la mesure de notre indépendance. Libre des banques et de la publicité, nous ne dépendrons que de vous, que des souscriptions, que du mouvement pour une information libre. »
Ça avait marché. Oui, moi j'ai mis des sous là-dedans dans l'entreprise. J'aimerais bien que après tous ces jours,
vous êtes fait rouler.
J'aimerais bien que ça me rapporte un peu.
Et oui, bah justement, ça ne rapportait rien, précisément parce que l'entreprise Libération n'était pas soumise à la loi du profit. Les gestionnaires au sein du journal étaient absolument méprisés. C'était des gens qui essayaient d'éviter les coupures de courant et puis la venue des huissiers. En 73, Sartre, le premier directeur de Libération, avait déclaré, je le cite, « Nous avons refusé de devenir une entreprise industrielle commerciale ». Donc, c'est important parce que pour Libération, l'économie était quelque chose d'extérieur. Et par conséquent, les journalistes pouvaient traiter d'économie sans y être eux-mêmes soumis aux lois économiques, dans leur qualité de salariés. C'est quelque chose qui est assez important parce que au début des années 80, le rapport de force entre les gestionnaires du journal et la rédaction va s'inverser complètement. Le nouveau Libération qui paraît en 81 n'est plus basé sur un projet rédactionnel, sur l'idée qu'on va changer le monde, sur des idées contestataires. Il est basé sur un projet d'entreprise. Il s'agit de faire marcher l'entreprise Libération.
Serge Julie, la participation du groupe chargeur de Jérôme Sédou est donc de 66%. Vous avez d'une certaine manière perdu le contrôle de votre journal, ce qui n'était pas véritablement le projet initial.
Et ça dépend ce qu'on met sous contrôle. Quand on parle de contrôle, c'est un mot qui en général désigne, on vous demande vos papiers dans la rue, c'est un contrôle d'identité, on demande comment vous appelez. Voilà, donc quand on dit passer sous le contrôle du groupe chargeur, d'abord on a fait cette opération volontairement. Moi, je suis pas du tout de ceux qui pensaient qu'on peut faire de la presse en étant déficitaire. Jusqu'à 93, le journal gagnait de l'argent tous les ans. Nous avons fait une mauvaise année 94, 95, 96 sera une année qui sera encore un peu déficitaire. Mais 97, mon objectif, notre objectif, est évidemment de revenir à
l'équilibre parfait. Et rentabilité.
Oui, mais vous savez, l'indépendance, c'est très simple. Il faut que ça marche, il faut gagner de l'argent. Donc, ça nous oblige, nous, à faire des journaux très performants, à avoir beaucoup d'imagination. Et d'une certaine manière, on a des problèmes quand on n'a pas assez d'imagination.
Voilà, et cette imagination, tous les matins, les auditeurs d'RTL peuvent en avoir un son, puisque Serge Julie est désormais éditorialiste sur notre radio concurrente. Et puis, on apprend quand même que ça s'arrange à Libération, Pierre Rimbert.
Oui, de l'imagination, Laurent Geoffrin et Édouard de Rothschild n'en ont pas eu besoin de beaucoup pour recruter les nouveaux actionnaires de Libération, puisque outre Carlo Caracciolo, qui est donc le fondateur du quotidien italien La Repubblica, on trouve dans le nouveau capital de Libération André Rousselet. André Rousselet, c'est qui? Eh bien, c'est le fondateur, le patron fondateur de Canal+, en 1984, qui à ce moment-là avait déclaré « Nous avons comme premier objectif le profit ». En 84.
Enfin, c'est bien les années 80.
C'est très bien. On trouve dans ce nouveau capital de Libération Pierre Berger.
Ah oui.
Hein, l'ancien patron d'Yves Saint-Laurent, qui fut aussi, dans les années 80, le financier du journal Globe. Le journal des mitterrandistes branchés sur la bourse. On trouve Henri Sédou, de la dynastie capitalistique française Sédou. Et puis, naturellement, on trouve notre camarade BHL. Un BHL qui était beaucoup trop absent des médias pour ne pas résister à la tentation d'entrer dans Libération, puisqu'il était seulement pigiste de luxe au Monde, chroniqueur au Point, ami intime de François Pinault, proche d'Arnaud Lagardère, et désormais actionnaire de Libération.
Est-ce que ça veut dire, Pierre Rimbert, que désormais ce sera les lecteurs de Libération qui auront le bonheur de lire les reportages de Bernard-Henri Lévy, ce grand reporter jalousé par tous?
Ce qui est certain, c'est que tout le monde attend avec la plus grande impatience la critique par Libération du prochain BHL. Et avec tous ces actionnaires, si on ajoute à cette assiette de gauche caviar, parce que c'est vraiment la gauche caviar, hein, Rousselet, Pierre Berger, BHL, si on ajoute à ça la présence de Suez dans le capital d'une entreprise qui est dominée par un banquier d'affaires, eh bien on s'aperçoit que Libération est désormais bien armée pour devenir la maison commune de la gauche, hein, celle que Geoffrin appelle de ses voeux.
On a été les instruments, au fond, de la victoire du capitalisme dans la gauche. On a été les instruments, au fond, de la victoire du capitalisme dans la gauche.
Et ben voilà. Merci à tous, merci à Pierre Rimbert. Je rappelle le titre de son bouquin « Libération de Sartre à Rothschild » aux éditions Raison d'agir. Aussi, je dois vous parler du collectif Aux urnes, etc., que nous soutenons pour leurs manifestations diverses et variées. Et Aux urnes, etc., vous attend avec des concerts et des cabarets citoyens du mardi 23 au samedi 27 janvier au parc de la préfecture de Cergy avec nos amis les Ogres de Barbac, le mercredi 24 à 14h. Pour plus d'infos, aux urnes, etc., .free.fr, c'est facile à trouver sur votre ordinateur favori. Et puis un rapide appel à témoignages pour des étudiants en histoire qui préparent un mémoire sur le magazine Pilote. Pilote fut un magazine de BD qui eut beaucoup de succès. Ça nous ramène à ce dont on vient de parler à propos d'eBay. Un magazine qui a eu beaucoup de succès dans les années 70. Est-ce que Pilote a contribué à politiser la génération des années 70 ou au contraire à la dépolitiser? Si vous avez envie de témoigner là-dessus, ben vous le faites sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37. C'est Eric Morin et Pierre-Éric Monsigny qui étaient à la technique aujourd'hui. Yann Chouquet et Raphaël Moutarde ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry et Christophe Imbert. Et ses grandes oreilles vous attendent près du répondeur au 01 56 40 37 37.